Bonjour à tous, nous sommes ensemble jusqu'à 15h et heureux de vous retrouver pour notre émission « Je suis venue vous lire » sur JetFM. Alors aujourd'hui, on part en voyage. Voyage d'agrément ou voyage d'études, voyage forcé ou voyage initiatique, il existe tellement de raisons de voyager. Il en existe autant qu'il existe de voyageurs. Mais peu importe la raison qui décide le voyageur à voyager, il est là, à cet instant, à cet endroit. Alors, attachez votre ceinture, on décolle.
Des hélices, Astro Jet, Whisper Jet, Clipper Jet Turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. A pris l'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis parti sur Québec Air, France World, Nord East, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus où je suis rendu. Cocotiers glacés dans les ponts, nos esquimaux bronzés qui tricotent des ceintures fléchées par-ci. Et toujours ma Sophie qui veut être partie sur Québec Air, Transworld, Nord East, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'sais plus, j'sais plus. Où j'suis rendu. Y avait même une compagnie qui engageait des pigeons qui volaient en dedans et qui faisaient le ballon pour la tenir dans le vent. C'était absolument, absolument, absolument très salissant. Alors parti sur Québec Air, Transworld, Nord East, Eastern, Western, puis Pan American. Mais je sais plus, je sais plus, je sais plus, je sais plus où je suis rendu. Ma Sophie à moi a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie, c'est plus parti. Et moi, à propos, et moi, je suis rendu à dos de chameau. Je préfère mon Québec Air, Transworld, Nord East, Eastern, Western, puis Pan American. Mais j'ai pu. Et j'ai retrouvé ma Sophie.
Chris.
Elle était dans mon lit.
Chris.
Avec mon meilleur ami.
Chris.
Et surtout mon pot de biscuits. À l'érable que j'avais ramassé. Hey, hey. Sur Québec Air, Transworld, Nord East, Eastern, Western, puis Pan American.
Thank you.
voyage, pour moi, disait Roland Dorgelès, qui était journaliste et écrivain, ce n'est pas arriver, c'est partir. C'est l'imprévu de la prochaine escale. C'est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose. C'est demain, éternellement demain. Dans les steppes d'Asie centrale, au Tibet ou dans les forêts françaises ou à Paris, Sylvain Tesson marche, chevauche, escalade, bivouac, soit dans un arbre ou sous un pont, construit des cabanes. Cet amoureux des reliefs en appelle à un nouveau nomadisme, à un vagabondage joyeux. Dans son livre « Petit traité sur l'immensité du monde », il nous invite à partager une philosophie de l'errance. Voici un extrait de ce très beau livre. La marche à pied transforme l'errant, mais moins que le voyage à cheval. Le voyageur à pied décide de tout, de ses actes comme de ses objectifs. Il est maître à bord de son voyage. Il pilote une troïka composée de son corps, de son âme et de son esprit. Sa volonté est le fouet de cet attelage. Le chemin se plie à ce qu'il décide. La fierté du bon marcheur est de ne pas trop laisser les événements décider de sa course. Il aime à les faire plier au fur et à mesure qu'ils se présentent. Mais pour peu qu'il se constitue chef d'une caravane de chevaux, la distribution des rôles changera. Subitement, il sera appelé à se soumettre. Il deviendra le pion d'une autre volonté. Il devra s'accorder à un rythme nouveau. Nous parlons ici du caravanier des temps modernes, pas de celui qui, sur les chemins de la soie, menait des cohortes d'animaux, dont beaucoup mouraient, épuisés par les cadences infernales du trafic de damasquins et d'argenterie. Au cours de chevauchées récentes, au Turkestan, en Mongolie, j'ai compris que c'est la bête qui commandait. On imagine la menée, elle imprime le tempo. Elle bat la mesure du sabot sur le sol et la cadence des journées de voyage. Dans la colonne, hommes et bêtes ont chacun leur place. Mais, pour tous, il n'y a qu'un seul rythme, lent, régulier, inaltérable, le rythme nomade. Mener son cheval dans les immensités ne se réduit pas à donner de temps à autre un coup de bride à l'encolure ou un coup de talon au ventre. La chevauchée est un mode de vie. Elle demande de savoir trouver l'alpage au terme de l'étape, de détecter le clou qui joue dans la ferrure, de lire dans le crottin les signes avant-coureurs de la maladie, de guetter l'irritation sur le cuir avant que ne se déclenche la gonfle, de repérer le bon alpage qui n'est pas forcément le plus vert, d'abreuver son cheval avant la soif, de servir la ration de l'étalon avant celle des ongres, des ânes ou des mulets. Ce sont les devoirs que le cavalier doit rendre à sa monture afin que l'harmonie règne et que se maintienne le fragile équilibre. L'entente entre les bêtes est une condition nécessaire mais pas suffisante à la prospérité d'une caravane. La caravane, c'est la paix entre les bêtes, entre les hommes et les bêtes, mais surtout entre les hommes. Le voyage à cheval initie le cavalier à une nouvelle lecture du monde. Il l'aide à se fondre dans l'environnement. L'homme sur un cheval avance sans bruit, débarrassé de ses effluves carnivores. Chevaucher aiguise les sens, renforce l'acuité de l'observation. Le cavalier dispose des émotions que manifeste sa monture. Le point de fusion est atteint quand l'homme et sa bête réagissent en même temps, débusquent la bonne pâture ensemble, esquivent le danger ou l'embûche d'un même geste, sans concertation. C'est l'entente ultime, complicité qui permet à chacun de prévenir les humeurs de l'autre. Le cheval devient miroir des émotions du cavalier.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound.
Tesson disait à propos du voyage à cheval que la chevauchée devient navigation. Alors embarquons à notre tour le temps d'une lecture avec un sacré navigateur. À bord de son minuscule catamaran, pour affronter, comme il l'avait baptisé, le plus monstrueux des océans, le Pacifique Nord. En 1991, après 134 jours de lutte incessante contre les éléments déchaînés, contre la solitude, la peur, la douleur, le doute, la détresse. Gérard Daboville atteint le 21 novembre la côte américaine. Quel exploit! Jour après jour, dans son carnet de bord, il raconte, lui, l'homme seul, complice de la mer, qui salue l'océan en ces termes, « Je n'ai pas vaincu le Pacifique, il m'a laissé passer. » Mais quelle aventure! Sacré voyage que celui-ci! Voici un extrait de son journal de bord. « 19 août. Cet océan est impitoyable, par la taille. Dans l'Atlantique, à distance égale, je serai déjà à mi-chemin. Ici, quand je regarde ma carte, je suis encore si près du Japon. J'essaie de ne plus compter en jours, mais en semaines, voire en mois. Hélas, quand je suis aux avirons, c'est en heures, en quart d'heure, parfois en minutes que je compte. J'ai cette double perception du temps. L'une qui concerne la traversée, en semaine, et l'autre ma journée, en minutes. Vissé à mon siège, abruti par ce labeur d'automate, j'essaie de ne pas trop regarder ma montre. D'après ma règle, je m'accorde 5 minutes de pause toutes les heures rondes. Alors je regarde cette aiguille des minutes qui gravite lentement, si lentement qu'elle paraît collée. Le temps semble ralentir à chaque coup d'aviron. Et chaque coup d'aviron à venir semble plus dur que le précédent. Chaque minute dure une heure et chaque heure une journée. Je me trouve dans une zone de haute pression, petite brise contraire. J'ai besoin de remonter en latitude. Là-haut m'attend du mauvais temps. Oh, quel malheur que d'avoir à souhaiter des dépressions pour progresser rapidement. Plusieurs avions de ligne très haut dans le ciel. Très certainement des vols transocéaniques. Quand j'imagine cet autre monde si proche et si différent, ces passagers confortablement installés, juste au-dessus de moi, je ressens une sensation étrange, un mélange d'envie et d'indifférence. Le Pacifique est terriblement vide. En un mois, je n'ai croisé que 2 navires. Je peux compter sur les doigts d'une main les jours ensoleillés. J'évolue dans un monde lugubre, monochrome. Quant aux poissons, je me demande où ils sont. Seule trace de vie animale, un moustique, un moucheron, quelques coryphènes venus se mettre à l'abri de ma coque, un aileron suspect et un dos de baleine. Celle-là, même pas eu le temps de la photographier, le temps de me saisir de l'appareil, elle avait déjà disparu. Et puis, soudain, j'ai aperçu une autre baleine. Oh, branle-bas de combat sur mon bateau. Le cétacé m'a paru grand, environ 10 mètres, du nez à la bosse dorsale, autant qu'il m'est possible de l'estimer, car il nageait à 100 mètres devant moi. Fébrile, je sors une caméra et l'appareil photo. Oh, trop loin pour lui tirer le portrait. Je tapote l'eau avec un aviron. Il paraît que ça les fait venir. Bof, mais rien. Elle m'ignore superbement bien. Vexée, je cherche à m'en approcher sur la pointe des pelles, mais elle me tourne le dos et plonge dans un mouvement de queue aussi majestueux que dédaigneux. Plus tard, c'est décidément mon jour de visite, une bande de dauphins rapplique sur tribord. Cela aussi, je me réjouis de les voir. Du temps où je naviguais avec Cornelia sur le Lady Maud, les dauphins venaient par dizaines faire les fous et jouer dans la vague des traves. Mais leurs cousins du Pacifique Nord ne s'attardent guère avec un camarade de jeu aussi pâteau que Sector, mon bateau. Oh, j'ai envie de leur crier « Hé, j'existe, venez !»
Painted sky where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him there. By the wings of dreams, through an open door, you may know him. If you may be as a page that aches for a word which speaks on a theme that is timeless, and the one God will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent, and the sun God will make for your way.
Il n'y a pas que dans le Pacifique Nord où l'on rencontre peu de monde. Peu de monde aussi dans le désert. Mais parfois, au loin, on peut apercevoir une caravane, comme une guirlande en ombre chinoise. Ce sont les Touaregs, ce peuple nomade. Lorsqu'un journaliste demandait à une femme Touareg quels sont les mots qui caractérisent son peuple, elle lui a dit « silence, liberté, voyage, honneur. Malgré la volonté des gouvernements de sédentariser les nomades, les Touaregs rêvent toujours de transhumance, de liberté, d'espace, de voyage. Leur vie d'éleveur est difficile, toujours à la recherche de pâturage et d'eau, toujours en garde contre le vol de bétail, toujours soumise aux rigueurs du climat. Et pourtant, c'est cette vie d'errance qu'ils aiment et revendiquent. Il faut avoir vécu la lente méditation que rythme le pas muet et somnolent d'un dromadaire à travers la mort blanche des sables pour comprendre vraiment ce qui sera arraché à l'homme avec la disparition du dernier nomade. C'était Mano Dayak, qui est un poète touareg, qui disait ce petit texte « Qui rêvera sur les traces de nos pas effacés ?» Alors, on ne s'étonnera pas de trouver dans la poésie touareg à la fois les sentiments que partage toute l'humanité, mais aussi un fréquent témoignage des exigences particulières et très fortes de la vie nomade en pays désertique. Dans un très beau livre, « Paroles de Touareg », voici ce que Mano Dayak écrivait. Le soleil épingle nos ombres sur le sable, et son bouclier dévore le ciel entier. Afin d'économiser leur mouvement, nos chameaux avancent lentement, les lèvres entr'ouvertes. Je déglutis l'air à travers l'épaisseur de mon voile. Je dois m'habituer à cette chaleur qui dessèche ma bouche et sacrifie ma peau. Je dois à tout prix oublier les outres suspendues à la selle de mon chameau, oublier mes paupières enflammées, la peau de mes cuisses irritées. Je dois gommer de mon esprit toute passion. Seules doivent me guider les oreilles laineuses de mon chameau. J'ai soif, encore soif, toujours soif.
Thank you.
Jeudi 24 mai. Départ de grand matin afin d'arriver ce soir dans la ville de Qom, réputée pour sa mosquée revêtue d'émail d'or, où repose la sainte Fatma, petite fille du prophète. Après 5 ou 6 heures de route dans un lumineux désert, dont les sentes sont jalonnées d'ossements, vers midi, à l'instant des fantasmagories et des mirages, quelque chose étincelle là-bas, dans l'inappréciable lointain, presque au-delà des horizons. Quelque chose qui n'est perceptible à l'œil que par son rayonnement, comme les étoiles. Un astre qui se lève, un globe d'or, un feu, on ne sait quoi d'inusité et de jamais vu. Comme, dit le conducteur des chevaux en indiquant cela du doigt. Alors ce doit être le fameux dôme d'or qui miroite au soleil méridien, qui est comme un phare de plein jour, appelant les caravanes du fond du désert. Ah, cela paraît et disparaît au hasard des ondulations du terrain. Et, après avoir trotté plus d'une heure dans cette direction, sans nous en être rapprochés sensiblement, cela s'éclipse tout à fait. Il est 4 heures du soir, quand nous apercevons les arbres de l'oasis de Qom, les champs de blé, et enfin la ville. Amas sans fin de ruines grises, toujours et toujours, décombres et fondrières. Il y a naturellement des coupoles par milliers, des donjons, des minarets, partout et de toutes les formes, des tours d'une couleur beige, des tours roses, qui sont comme coiffées d'un turban d'émail bleu, et sur chaque pointe dressée vers le ciel, se tient gravement une cigogne debout dans son nid. Il y a beaucoup de jardins à l'abandon, qui sont remplis de grenadiers en fleurs et dont le sol est empourpré par la jonchée des pétales. Mais ce dôme d'or, ce tombeau de Fatma, entrevu de si loin dans les mirages de midi, mais où donc est-il ? Nous l'avions rêvé sans doute, car rien n'y ressemble. De temps à autre, une porte s'ouvre, au roulement de notre voiture, au bruit de nos grelots, et quelques femmes dévoilées risquent un de ses yeux, une moitié de son visage, toujours jolie, pour regarder qui passe. Une 20aine de petits enfants, tous adorables, couverts d'amulettes, la chevelure teintant rouge de flamme, nous suivent à la course, dans l'ébahissement de notre attelage, et nous entrons avec ce cortège sous les voûtes des bazars. Alors, pénombre subite, difficultés et frôlements continuels. Pendant 20 longues minutes, au milieu des chameaux velus, dont nos 4 bêtes reniflent avec dégoût la senteur musquée, là se coudoient les nomades en haillons, les Iraniens en belles robes, les Afghans à bonnet pointu, les Bédouins de Syrie, la tête ornée de soie éclatante et de cordelettes. Toutes sortes de monde, une foule énorme, on y voit à peine. La clarté du soir nous est cependant rendue. Et le dôme étincelant nous réapparaît enfin, tout proche, trônant au milieu d'un décor qui a l'air arrangé là par quelques magiciens pour nous éblouir. Le long d'une rivière desséchée, au lit de galets blancs, que traverse un pont courbe à balustres de faïence, un panorama de féeries se déploie. Pêle-mêle, enchevêtrés, superposés, des portiques, des minarets, des dômes, ruisselant d'émail et d'or. Tout ce qui avoisine le sol est d'émail bleu. Tout ce qui s'élève est d'émail vert. À reflets métalliques comme la queue des paons. La décoration se fait de plus en plus dorée à mesure qu'elle s'éloigne de la base. Et tout finit vers le ciel en pointe d'or. Et c'est si neuf, si beau, si flamblant, si imprévu au milieu de cette ville de débris et de poussière. Parmi ces magnificences croisent des arbres tout rouges, des grenadiers flottement fleuris. On dirait qu'il a neigé dessus des perles de corail. Et derrière tout cela, les grands cimes, deux fois hautes comme nos Alpes. Ils se découpent toutes roses dans leur gloire de la fin du jour, sur un fond couleur d'aigle marine. Mes yeux, qui ont vu tant de choses, ne se rappellent rien d'aussi étourdissant, ni d'aussi fantastique, rien d'aussi éperdument oriental que cette apparition du tombeau de la Sainte Fatma, un soir de mai, au sortir d'une nef obscure. Il existe donc encore en Perse des choses qui ne sont pas en ruine, et de nos jours, on peut donc construire ou restaurer comme au temps des mille et une nuits. L'invitation au voyage, c'est un texte de Pierre Loti. Pierre Loti, qui est un écrivain, mais aussi un grand navigateur, et surtout connu aussi pour son excentricité. Quand on évoque le voyage et le voyageur, on pense bien sûr à Blaise Cendrars, considéré aujourd'hui comme le plus grand poète voyageur de la littérature française. En effet, contrairement aux nombreux écrivains qui ont écrit sur le voyage sans véritable expérience, la totalité de l'œuvre de Blaise Cendrars est basée sur ses propres voyages à l'étranger. Son poème, La prose du Transsibérien, en est l'exemple parfait, puisqu'il raconte son voyage en Russie après sa fugue de Paris. Ce poème nous donne à la fois son point de vue sur le voyage et sur le monde de l'époque. Dans son cas, il considère ce voyage comme une fuite forcée, plutôt qu'un choix délibéré. En plus de raconter ce voyage, il nous donne aussi son point de vue sur la modernité qui apparaît au XIXe siècle, avec la révolution industrielle notamment. Voici un extrait de la prose du Transsibérien. Je suis en route. J'ai toujours été en route. Je suis en route avec la petite Jeanne de France. Le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues. Le train retombe sur ses roues. Le train retombe toujours sur toutes ses roues. Blaise, dis, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Nous sommes loin, Jeanne. Tu roules depuis 7 jours. Tu es loin de Montmartre, de la butte qui t'a nourri, du Sacré-Cœur contre lequel tu t'es blotti. Paris a disparu avec son énorme flambée. Il n'y a plus que les cendres continues. La pluie qui tombe, la tourte qui se gonfle, la Sibérie qui tourne, les lourdes nappes de neige qui remontent et le grelot de la folie qui regrelotte comme un dernier désir dans le ciel bleui. Le train palpite au cœur des horizons plombés et ton chagrin ricane. Dis Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Oublie tes inquiétudes, Jeanne. Toutes les gares lézardées obliquent sur la route, les fils télégraphiques auxquels elles pendent, les poteaux grimaçants qui gesticulent et les étranglent. Le monde s'étire, s'allonge et se retire comme un harmonica qu'une main sadique tourmente. Dans les déchirures du ciel, les locomotives en furie s'enfuient. Et dans les trous, les roues vertigineuses, les bouches, les voix et les chiens du malheur qui aboient à nos trousses, les démons sont déchaînés. Ferraille, tout est un faux accord. Le brou-rou-rou des roues, choc, rebondissement. Nous sommes un orage sous le crâne d'un sourd. » Hélène fit cuire un jambon fumé, écrivit un mot à son mari retenu sur le lac, au cas où il ferait escale plus tôt que prévu, et précéda sa fille vers la halte ferroviaire, bras et jambes raidis par les bagages. C'était plus loin qu'elle ne l'avait cru, et elles aperçurent le train qui haletait déjà en tournant le coin de la rue. Toutes deux coururent le long de la voie vers la voiture indiquée par le porteur noir. Et alors, elles firent une grave erreur. Hélène et sa fille montèrent dans un wagon peuplé d'une vingtaine de blancs, hommes et femmes. Plutôt que faire demi-tour et redescendre les trois marches en bois, Hélène choisit de s'épargner cet embarras et de continuer jusqu'au wagon des gens de couleur. En ouvrant la porte réservée aux gens de couleur, elles virent un contrôleur blanc qui venait dans leur direction. Il faisait froid. Mais le visage de la femme se couvrit d'une mince couche de sueur luisante, tandis qu'elle-même et sa petite-fille s'efforçaient de tenir la porte ouverte, de ne pas lâcher leur valise et d'entrer le tout à la fois. Le contrôleur laissa ses yeux glisser sur la femme au teint jaune clair, puis s'enfonça le petit doigt dans une oreille pour la déboucher. « Mais crois-tu aller comme ça, ma fille ?» Hélène leva les yeux, croyant que l'homme voulait ses billets. Elle laissa aussitôt tomber la valise de cuir et celle en osier pour fouiller dans son sac. « Je les ai, tout de suite, ça vient, monsieur. » d'une voix où se mêlait le désir de plaire et l'excuse d'être en vie. Le contrôleur examina le bout de cire extrait par son ongle. « Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Qu'est-ce que tu faisais dans ce wagon derrière ?» Hélène s'humecta les lèvres. « Oh, je... » Son regard dépassa le visage de l'homme blanc jusqu'au voyageur assis plus loin. Quatre ou cinq visages noirs la regardaient, dont deux soldats qui portaient encore leur uniforme couleur de merde et leur bonnet pointu. Elle vit leurs visages fermés, leurs yeux opaques, et se tourna vers les yeux gris du contrôleur en quête de compassion. « Nous nous sommes trompés, monsieur. Voyez-vous, il n'y avait pas d'écriteau. Nous nous sommes juste trompés de voiture, c'est tout, monsieur. »«
Pas permis de se tromper dans ce train. Maintenant, tire ton cul de là !»
Quand la porte claqua, derrière le contrôleur, Hélène s'avança jusqu'à une place libre. L'espace d'un instant, elle regarda si un des hommes allait l'aider à monter ses valises dans le filet. Mais pas un ne fit un geste. Elle s'assit en marquant bien qu'elle leur tournait le dos. Le voyage dura 2 jours. 2 jours à regarder la neige se changer en pluie, puis en crépuscule empourpré, et une nuit recroquevillée sur les banquettes en bois, la tête sur un manteau plié. Quand elles changèrent de train à Birmingham pour la dernière partie du trajet, elles mesurèrent le luxe dont elles avaient profité à travers le Kentucky et le Tennessee, où il y avait des toilettes pour gens de couleur à toutes les haltes. Après Birmingham, plus rien. Hélène avait les traits tirés par l'envie de se soulager. Sa détresse monta au point qu'elle finit par se résoudre à parler de ce problème à une femme noire montée à Tuscaloosa avec ses 4 enfants. Excusez-moi, y a-t-il un endroit où nous pouvons aller aux toilettes ? La femme leva les yeux sur elle sans paraître comprendre. « Ma'am ?» Ses yeux s'attachèrent au col en gros velours, à la peau claire, à la voix distinguée. « Les toilettes, » répéta Hélène, puis en chuchotant, « les cabinets. » La femme tendit le bras vers la fenêtre et dit « Oui, ma, là-bas ». Hélène regarda par la fenêtre, s'attendant presque à voir un chalet de nécessité dans le lointain. Il n'y avait que des arbres gris-verts penchés sur des herbes folles. « Où ?»« Là-bas, dit la femme, à Méridien, on est bientôt rendu. » Puis elle eut un sourire de compassion et demanda « Vous pourrez tenir ?» Hélène hocha la tête et reprit sa place en s'efforçant de penser à autre chose. Le meilleur moyen d'avoir un accident serait de penser à sa vessie trop pleine. À Méridiane, la femme descendit avec ses enfants, tandis qu'Hélène cherchait dans la gare minuscule une porte avec femme de couleur. L'autre femme s'enfonça dans les hautes herbes de l'autre côté de la voie. Quelques hommes blancs étaient accoudés à une rambarde devant la gare. Ce ne fut pas seulement à cause de leur langue enroulée autour d'un cure-dent qu'Hélène s'abstint de les interroger. Elle chercha des yeux l'autre femme et aperçut le haut de son fichu dépassé de l'herbe et comprit peu à peu où était ce « là-bas ». Tous, la grosse dame et ses quatre enfants, trois garçons et une fille, Hélène et la ciel, s'accroupirent à Méridiane sous le soleil de 4 heures. Ils recommencèrent à Ellisville, puis à Hattiesburg, et quand ils arrivèrent à Seedel, non loin de Pontchartrain, Hélène savait non seulement plier les feuilles aussi bien que la grosse dame, mais elle savait, sans même tiquer sous les yeux des hommes, elle passait devant, plantée comme des colonnes branlantes sous l'auvent de gare de chaque ville. Enfin, le courage que lui avait rendu un tel exploit disparut bien vite quand le train fut arrivé à la Nouvelle-Orléans. Toni Morrison a écrit des pages inoubliables sur le regard blanc qui pose sur tant de noirs américains. Elle a reçu le prix Pulitzer en 1988 pour son livre Beloved et le prix Nobel de littérature en 1993 pour l'ensemble de son œuvre. Elle nous a quitté le 5 août de cette année, a quitté 88 ans. Elle disait « Vos mots m'ont aidé à vivre ». Le voyage n'est pas toujours un voyage d'agrément comme celui de Toni Morrison. Le voyage est malheureusement pour beaucoup une fuite, un exil, un drame quotidien pour trop d'êtres humains forcés de vivre ailleurs. C'est ailleurs où ils se sentent étrangers, mis à l'écart. Ils sont condamnés à l'exil, alors ils partent. Et surtout, ils ne se retournent pas. Ils ne se retournent pas pour dire adieu à l'exil. Un autre les attend. Ils se sont habitués à tourner en rond, sans devant, sans arrière, sans nord ou sud. Ils migrent, de la clôture vers le jardin, et laissent un testament dans chaque mètre du patio de la maison. Après nous, ne vous souvenez que de la vie. Ils voyagent, du matin verdoyant à la poussière du midi, portant leur cercueil empli des objets de l'absence, une carte d'identité, et une lettre d'amour pour une femme à l'adresse inconnue. Après nous, ne te souviens que de la vie. Il migre, des maisons vers les rues, faisant le V blessé de la victoire, et disant à quiconque les voit, « Nous vivons encore, ne vous souvenez pas de nous !» Ils sortent du récit pour respirer et s'ensoleiller. Ils rêvent de voler plus haut, et encore plus haut. Ils s'élèvent et se posent, partent et reviennent, sautent des céramiques anciennes vers les étoiles, et reviennent dans le récit. Pas de fin au commencement. Ils fuient la somnolence vers l'ange du sommeil blanc. Leurs yeux ont rougi d'avoir tant contemplé le sang répandu. Mais après nous, ne vous souvenez que de la vie, Mahmoud Darwish.
Nous aurons laissé une traînée de poudre, fait un cercle des villes, brûler la mèche avec un module vent. Enfumer le matin pour le compte d'un ogre, nous aurons laissé à l'odeur un peu de sueur et des rumeurs de rêve. Nous aurons aujourd'hui ramassé un fruit étrange pour le compte des oiseaux. La graine de perse mêlée des cheveux de l'ombre sur la peau de l'Afrique. Aux gorges de l'Ardèche sur les échasses du Mali, je saluerai le prochain paysan dans sa langue attardée en chemin. Je saluerai la prochaine femme qui passe dans le dialecte des Pangés ou d'un silence qui n'arrache pas de voile. Des graines de perse mêlées aux cheveux de l'encre, j'accrocherai à sa bouche.
Et que le diable m'emporte d'avoir appris le nom de Dieu, le nom de Mohamed dans la visière d'un fusil. Maralinga Gaya. Le diable m'emporte d'avoir appris le nom des hommes, le nom des femmes, sous le couperet d'un sabre. Maralinga Gaya.
Nous aurons égrené un rien d'aridité, lancé à la Pologne. Fleur équivoque, nous ne sommes pas de carare mais d'ardoises fragiles. Nous sommes d'origine du limon, d'un fleuve maternel, porte un songe fiévreux aux journées dont les deux côtés sont l'envers. L'Arctique qui se tient sur le flanc d'une baleine.
Maralinga Gaya.
Et que le diable m'emporte d'avoir appris le nom de Dieu, le nom de Mohamed dans la visière d'un fusil.
Maralinga Gaya.
Et que le diable m'emporte d'avoir appris le nom des hommes, le nom des femmes, sous le couperet d'un sabre.
Maralinga Gaya.
Fais un cercle des villes, brûler la mèche avec un mot du couchant.
Maralinga Gaya.
Détourner la parole pour l'oreille d'un sourd, nous aurons laissé à l'odeur un peu de sueur.
Maralinga Gaya.
Et des rumeurs de rêve. Nous aurons aujourd'hui ramassé un mot étrange pour le compte des enfants. Des mots de jam et les dissenteurs de l'ombre sur la peau de l'Afrique. Accroché un anneau à l'oreille du Balkan. Pendu une larme au lustre des Amériques. Et que le diable m'emporte d'avoir appris le nom des terres et des déserts. Dans la visière d'un fusil.
Maralinga Gaya.
Et que le
diable m'emporte d'avoir appris le nom de Dieu, le nom de Mohamed, sous le couperet d'un sabre.
Ellis Island est une petite île new-yorkaise située à moins d'un kilomètre au nord de Liberty Island qui abrite la Statue de la Liberté. Elle a été dans la première partie du XXe siècle l'entrée principale de plus de 12 millions d'émigrants arrivant à New York pour vivre leur rêve américain, fuyant des conditions de vie difficiles en Europe. Ellis Island a été le centre fédéral de l'immigration pour finir en centre de détention lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, elle est devenue un musée, très visité. 40% des Américains comptent au moins un ancêtre ayant transité par ce lieu. Voici un texte de Tristan Cabral, le passeur de silence. Plus personne n'arrive à Ellis Island. Des visages anciens glissaient sur l'Est River et j'étais plein d'un vieux sang arménien, ou peut-être italien. Je portais le carquois de l'Indien brise-lame, avec pour toute aurore le vieux regard des émigrants, vêtus de peur et de douleur. Mais plus personne n'arrive à Ellis Island. Sur l'East River, j'allais dans un canot avec petites fleurs, couché en chien de fusil. Je portais vers le nord des ballots de lueur, les oies du Cap Tourmente, s'en venaient vers le cœur acéré du flécheur, et j'attendais la longue nuit des couteaux. Mais plus personne n'arrive à Ellis Island. Je suis plein d'un vieux sang arménien ou bulgare, et j'ai vu à Brooklyn un certain marchand d'ombre, qu'on appelait Bonchek, qu'il calculait la nuit tout le temps qui restait avant la venue du Messie. Je suis le voyageur des mémoires manquées. Mais Ellis Island est fermé pour toujours. Pour terminer cette émission, je laisse le micro à un autre voyageur, un voyageur de la vie.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage t'écœure. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda sur ton nom, elle va passer un coup de tipex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève. Et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus.
Notre émission « Je suis venu vous lire » est terminée. Elle reviendra jeudi prochain à la même heure, 14h, sur Jet FM. À la technique et à la programmation musicale, Michel Yordanov. À la lecture et à la réalisation, Corinne Tardieu. Merci à Jean-Pierre Gallet de son aide dans la recherche et les propositions de certains textes pour cette émission. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.jet-asso.fr. Bonne écoute sur Jet FM.